Shalom les koulam, shalom, boker tov mesdames, boker tov à toutes. Et c'est reparti donc pour une étude de la névoa dans tous ses états. La névoa dans tous ses états. Alors faites-moi un signe, un petit signe pour me dire que c'est bon, qu'on peut y aller. Et comme ça, eh ben on y va. Donc j'attends quelques secondes que vous vous manifestiez. Et après, on se lance. Hop là. Alex, toi, tu es go. Mesdames, est-ce qu'on peut être go? Est-ce qu'on est bon? C'est bon. Super. Alors, c'est parti. Bon carton à tout le monde. La névoa dans tous ses états. On est reparti. Dans notre immersion dans les paroles des prophètes, nous sommes donc dans le livre de Shmuel, Shmuel Aleph pour le repérage. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, puisqu'on va tout simplement mettre en avant eh bien, l'idéal de ce pourquoi Shmuel a été envoyé. Je rappelle que lorsqu'on avait terminé le livre de Shoftim, eh bien, on s'était intéressé à cette phrase qui marquait bah, le problème du livre de Shoftim, à savoir « Ubayami Mahem » Ein Melech beIsrael, Ish Ayashar beEnav Yaaseh. Il n'y avait pas de pouvoir central, il n'y avait donc pas de royauté dans le peuple juif, ce qui manquait évidemment pour pouvoir atteindre une véritable osmose et une véritable relation avec Dieu. Il fallait pour ça passer par l'unité complète du peuple d'Israël. Et la malchut, la royauté, eh bien, est cette dimension qu'il va falloir amener dans le peuple juif pour pouvoir avoir cette unité. Et donc, les chapitres que nous allons étudier ce matin, à commencer par le chapitre 8 du livre de Shmuel, Shmuel Aleph, 8, 9, 10, a priori, on va voir, c'est les chapitres de la Malchoute. Donc, c'est parti. Rentrons dans le vif du sujet. C'est ce pourquoi Shmuel a été choisi pour Léamlich Melachim, couronner des rois. C'est ça son grand travail au prophète Shmuel. Donc, je suis au chapitre 8, verset Aleph. Vayika asher zaken Shmuel vayasem et banav shoftim l'Israël. Et là, on a tout le paradoxe. Shmuel, eh bien, bien qu'il se soit comporté comme un roi, et ça, on l'a vu la semaine dernière, eh bien, il n'en est pas moins un chauffette, uniquement un chauffette. Et donc, il a essayé de mettre en place derrière lui ses enfants comme shoftim à l'Israël. וישם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שופטים בבאר שבע ולא הלכו בניו בדרכיו ויתו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט. Voilà, toutes les désillusions de Shmuel tombent. Shmuel, qui a essayé de continuer l'œuvre qu'il avait mis en place avec ses enfants se révèlent indignes de lui et ça ne marche pas. Ce qui montre que Shmuel ne pouvait pas être un idéal. Quand tu as un homme qui va à l'inverse de tout ce que la Torah l'a demandé, certes, pour de bonnes raisons et de manière permise, puisque c'est un prophète et que donc il a le droit, en tant que Horat Shaa, de directive pour un moment donné, de transgresser la Torah. Donc Shmuel, il est Beseder Gamour. Mais ça ne peut pas être l'état constant prôné par la Torah. Et donc, il va falloir faire autre chose. Le peuple ressent qu'il a besoin d'unité. Et ça, c'est la première grande valeur de ce chapitre-là. C'est que la volonté de la royauté vient du peuple et ne vient pas d'en haut. Il va évidemment y avoir un ishour qui va venir d'en haut. Mais d'abord, cette volonté, elle vient profondément du peuple juif. C'est la première fois qu'on voit Am Israël se réunir et dire « ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ואמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. Et voilà, les béné Israël viennent voir Shmuel et lui disent: Shmuel, toi t'es plutôt jeune, entre parenthèses, c'est quoi plutôt jeune pour Shmuel? 52 ans. Oui, ça met les choses en perspective. Shmuel va vivre 52 ans. Donc, Vata Zakanta, qu'en irait, que ce n'est pas une question de Zakanta physiquement. Et là, tout le monde comprend que c'est maintenant plus à Shmuel de faire le travail. Ça ne peut plus être lui qui réunit en son sein tous les pouvoirs, et particulièrement pas les pouvoirs de direction du peuple juif. Et donc, ils viennent et ils disent « Sima alenu melech leshoftenu kechol agoyim » « Mets sur nous un roi qui va pouvoir nous juger comme toutes les nations. » La grande question, c'est est-ce que c'est « Tov » ou « Zelotov » ? Ça, c'est une grande question. « Zetov » ou « Zelotov » la sim « Melech » ? Eh bien, a priori, « Zetov meod » puisque je vous rappelle que c'est une mitzvah de la Torah. Dans la paracha de Shoftim, on nous dit « Som tasim alecha melech » C'est une mitzvah de mettre sur nous un roi. Une des trois mitzvot que le peuple juif doit accomplir lorsqu'il rentre en Israël. Donc le fait que les Bnei Israël demandent un roi, ce n'est pas négatif, bien au contraire. Et pourtant, Shmuel, on voit qu'il n'est pas content du tout. Az lamalo. Lamalo. D'ailleurs, on saura que certains rabbanim, bien plus tard, seront contre l'idée de Malchut Israël. Par exemple, le dernier en date, le rabbi Yoel Moshe Teitelbaum, le rabbi de Satmar, qui pensait, lui, que l'État d'Israël était pourri parce que c'était un État, parce que c'était une Malchut. C'est-à-dire que pour lui, la malroute ne peut exister que s'il y a un prophète qui a nommé le roi. Bon, là, on n'est pas d'accord avec le rabbi de Satmar, c'est qu'il y a une mitzvah de faire une malroute même sans melech. Et il y a une mitzvah de nommer un roi même sans navi. Donc, nous avons une mitzvah de faire un roi. Alors, pourquoi Shmuel n'est pas content ? Eh bien, certains auront voulu dire que c'est parce qu'ils ont dit « kechol agoyim », comme les autres nations. Est-ce que c'est le Gnaï ou le Shvar? Il répond à Shmuel, ils en ont marre de moi. Donc tu dis, Dieu n'est pas très content non plus. Attends, je ne connais pas encore la réponse de Dieu, je ne l'ai pas encore lue, donc tu vas trop vite. Pour l'instant, je veux savoir quelle est la demande des Bnei Israël. Eh bien, est-ce que c'est bien de dire, mets sur nous un roi comme tous les autres nations, toutes les autres nations? Le natif de Vologine va nous expliquer que c'est très bien. Que ce n'est pas du tout à prendre de manière péjorative, mais au contraire, ça doit être une jauge. Qu'est-ce que ça veut dire une jauge ? Et la question que pose le natif de Vologine au XIXe siècle, c'est de savoir quel est le système politique idéal prôné par le judaïsme. Est-ce qu'il faut une monarchie ou la démocratie, c'est bien ? C'est mieux. Qu'est-ce qui vaut mieux ? La démocratie ou la monarchie ? C'est une question d'ailleurs qui avait été posée par le tsar de toutes les Russies au Gaon de Vilna. On n'a pas vraiment de texte qui relate ça, mais d'après les enseignements oraux qu'on a, le Gaon aurait répondu que c'est mieux une monarchie. Pourquoi ? Bah parce que si le roi sait que la royauté, le royaume, passera à son fils après lui, alors il fera tout pour lui laisser un bon royaume, parce qu'il veut que son fils il ait des bonnes choses. Donc, bah, ça va permettre d'avoir un bon royaume, puisque le roi veut laisser quelque chose de bien à ses enfants. Alors que si c'est une démocratie et qu'on change de dirigeant chaque semaine, bah, qu'est-ce qu'il s'en fiche de savoir si ça il laisse le truc en bon état ou pas en bon état ? Bon, est-ce qu'il n'aurait pas dit ça sous la pression du tsar, machin ? On n'en sait rien. Le natif, il dit la chose suivante. Il dit, la démocratie, c'est aussi Besseder. Puisque d'après Klalé Piske à Roche, c'est aussi une dimension de malchut, la démocratie. Donc, pas de problème. Mais est-ce que c'est mieux d'avoir une royauté ou une démocratie ? Eh bien, à cela répond le natif, Kechol Agoïm. Mazé Kechol Agoïm ? Eh bien, regarde ce qui se passe autour de toi chez les Goïms. Et tu verras, si les Goïms qui sont autour de toi, qui ont une royauté, c'est-à-dire qui ont une monarchie, tu vois que ça se passe bien dans leur pays et que ça crée une société juste, alors prends l'exemple. Mais si tu vois qu'au contraire, c'est les pays où il y a une démocratie qui sont les pays les plus civilisés, moraux et tout ça, alors prends exemple sur eux. En d'autres termes, Kechol Agoïm, ce n'est pas forcément péjoratif. Comme toutes les autres nations, c'est une jauge qui doit nous dire, voilà, regarde ce qui se passe ailleurs et tu créeras le système politique qui est le mieux. Ici, ben, on connaît un petit peu l'ambiance de l'époque. Et donc, on voit que Kechol Agoïm de l'époque, Zelo Machou. Et c'est là où effectivement Shmuel n'est pas content. parce qu'il connaît très bien le natif de Volozhin. Et il sait très bien que regarder les nations, ça doit être une jauge. Mais la jauge, elle montre quelque chose de très négatif pour le moment. Et donc, ça ne peut pas être ça qui est l'idéal auquel le peuple juif aspire. Alors, regardons. Vayomer Hashem el Shmuel. Ezra. Vayera adavar beine Shmuel. Kasher amrut tena lanu melech le shoftenu veitpalel Shmuel el Hashem. Donc, Shmuel, il est dégoûté. Il dit, c'est pas bien, c'est, ils ont rien compris. Vayomer Hashem el Shmuel. Shema bekol ha'am. לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו, ממלוך עליהם. Donne-leur ce qu'ils veulent, dit Dieu à Shmuel. Parce qu'ils n'en ont pas contre toi, c'est contre moi qu'ils en ont. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est contre moi qu'ils en ont? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, dans le fait qu'ils demandent un roi, ils veulent s'émanciper de la Torah? Ben absolument pas! Parce que s'ils avaient voulu s'émanciper de la Torah, à qui ils auraient demandé de mettre un roi? Ben à personne, ils auraient mis un roi. Le fait qu'ils demandent cela à Shmuel, qui est Nevi Hashem, eh bien, ça montre qu'ils ne veulent pas s'émanciper de Dieu. Ils veulent s'émanciper du pouvoir donné aux hommes de Dieu. Vous savez, le terme de théocratie a été inventé par Flavius Joseph. Et qu'est-ce qu'il entend par théocratie? Le pouvoir au prêtre. Le pouvoir au Mikdash. Donc non, la Torah ne prône pas pour une théocratie. Bien au contraire. La Torah prône pour un système politique qui peut être une monarchie, qui peut être une démocratie, dans lequel les représentants du peuple sont également les représentants que Dieu a choisis. Et ça va être exactement de cela qu'on va parler. Car le Am Israël veut un chef et Akadosh Baruch Hu va leur donner un chef. C'est donc que ça vient des deux. Est-ce que ça ne vient que d'en bas? Non. Est-ce que ça vient que d'en haut? Non plus. Alors, quand tu as un régime politique qui est complètement dominé par les Kohanim, tu as l'impression que c'est une théocratie / oligarchie où seules les élites dominent et que celui qui n'est pas né élite ne sera jamais un élite. Il y a une barrière sociale terrible. Ce n'est pas le cas. Il faut que le roi il soit choisi par le peuple. Et ensuite, il reçoit la gushpanka, le tampon de kacherisation de Dieu. Ça veut dire quoi? De la même façon que je les ai sortis d'Égypte et que je leur ai donné des lois, des mitzvot, et ils m'ont tourné le dos, ils ont servi à Vodazara, ben ils font pareil avec toi. Ben, ça veut dire quoi, ils font pareil avec toi? C'est pas qu'ils n'aiment plus ce que tu représentes, ils veulent autre chose. Comme nous disent nos sages, qu'à chaque fois qu'Am Israël a fait la Vodazara, c'est pas qu'il avait renié Dieu, c'est juste qu'il voulait aussi autre chose. Donc ici, il faut le comprendre dans le sens, ce que représente Shmuel est bon, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Il va falloir résoudre les réactions de Shmuel et de Dieu. Ben il dit, c'est pas. ואתה, שמה בקולם, אך כי העד תעיד בהם, והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. Dis pas de problème. Ils veulent un roi, on va leur donner un roi, dit Dieu à Shmuel. Mais tu vas bien leur expliquer à quoi ça correspond un roi. Et là, on a toutes les lois qui sont amenées par Shmuel, on va pas forcément toutes les lire, je vais vous les dire tout simplement, c'est que le roi, c'est lui le chef, il peut prendre leur fils à l'armée, il peut prendre leur fille comme épouse, il peut même les prendre comme concubine, il peut avoir une main mise sur leurs biens. En gros, c'est lui le chef. Non, pourquoi il a besoin de rappeler ça à Dieu? Eh bien, pour une raison très simple, on n'a jamais vécu comme ça. On n'a jamais vécu avec une centralité du pouvoir. Car même si à l'époque de Moshe, il y avait une centralité du pouvoir, c'était une centralité du pouvoir dans un endroit qui n'existe pas. Donc, ça ne se ressentait pas véritablement. Là, on est en Israël. Cette centralité du pouvoir, elle va avoir aussi un lieu physique. En d'autres termes, fais-leur bien comprendre que la mise en place d'un roi, c'est la fin du règne tribal. Car jusqu'à présent, Am Israël vivait de manière tribale. Est-ce que Zébé Seder, que le roi, il soit la fin du règne tribal? La réponse est oui. Je voudrais vous rappeler une chose. Dieu, il veut qu'il y ait un roi. Il l'a dit dans la parasha de Shoftim avant même qu'on arrive à Shmuel. Le but du jeu, c'est oui, d'avoir un roi. Et le natif nous a expliqué que Kechol Agoïm, ce n'est pas forcément négatif. C'est juste dans quel état d'esprit les Bnei Israël, là maintenant, veulent un roi. En d'autres termes, le problème n'est pas que les Bnei Israël veulent un roi. C'est très bien qu'ils veulent un roi. Mais la raison pour laquelle ils veulent un roi maintenant, elle, elle est problématique. C'est comme si tu dis, moi, je veux faire Shabbat parce que ça me permet de me reposer et d'être plus en forme pour samedi soir. Moi, je suis un fan de Shabbat parce que j'adore sortir le samedi soir. Et comme ça, je peux dire à ma femme, à mes enfants, non, moi, Shabbat Menucha, Shnatz de Shabbat Meshubachat, donc de 2h à 7h du soir jusqu'à Mincha, je dors. On ne me dérange pas, c'est Onnek Shabbat. Lama, comme ça, je suis en forme pour sortir avec mes copains jusqu'à 3h du matin le samedi soir. Alors, c'est très bien de faire Shabbat. Ah ben, la raison pour laquelle tu fais Shabbat est mauvaise. C'est-à-dire ? Donc, après que Shmuel ait donné toutes les lois des rois, eh bien, on arrive finalement à... il y a une question ici qui est posée. Est-ce qu'on n'aurait pas dû réclamer un roi à la mort directement de Yehoshua ? Absolument pas. C'était inenvisageable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à la mort de Yehoshua, il n'y a pas eu de moment où les tribus étaient plus mises en avant qu'à la mort de Yehoshua. Car je te rappelle que la mort de Yehoshua, c'est également la fin de la Itnachalut. Ce n'est pas seulement la fin de la guerre, mais c'est la fin où chaque tribu a pris possession de son lopin de terre. Donc, si tu veux, à ce moment-là, est mis en avant la dimension tribale. Il va falloir passer par toute l'époque des Shoftim pour voir que le fait que Am Israël ne soit pas uni va le faire tomber aux mains de ses ennemis pour que finalement, dans le livre de Shmuel, Am Israël en ait marre de cette situation et veulent se réunir. Et donc, à ce moment-là, après que Shmuel ait donné toutes les lois des Bnei Israël, toutes les lois du roi qui sera au Bnei Israël, Yomer au chapitre toujours 8, verset Kafbet, Yomer Hashem el Shmuel, Shema Bekolam, Vimlachta Lahem Melech, Yomer Shmuel el Anche Israël, Lechu Ish Leiro. En d'autres termes, Dieu dit, voilà, on a préparé deux, on va mettre un roi. C'est-à-dire qu'on voit ici que Dieu, à aucun moment, il est contre l'idée de mettre un roi. À l'opposé de Shmuel, qui pense que ce n'est pas le moment. Et donc, on y va. Et ça va être qui, ce roi ? Eh bien, c'est ce qui nous fait rentrer dans le chapitre tête. Vous connaissez le roi d'Israël numéro 1, il va s'appeler Shaoul. Et la grande question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Shaoul ? Mais avant ça, pourquoi pas un descendant de Yehuda ? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par Shaoul avant d'arriver à David ? Allez, on a lu un tout petit peu le Tanakh. On sait très bien que le roi idéal, ce n'est pas Shaoul Ameler, c'est David Ameler. Donc, pourquoi passer d'abord par Shaoul et pas par David ? Eh bien, cette raison, elle est fondamentale. Elle nous est expliquée par, tout simplement, la raison qui nous explique pourquoi Yaakov a dû se marier avec deux femmes. Ah, tu dis, ma chère Ben Yosef, sauf que Mala Asot, que Shaoul, il n'est pas mi Yosef, il est mi Binyamin. Donc, c'est pas, on ne peut pas mettre ma chère Ben Yosef à toutes les sauces. Et Lama. Yaakov s'est marié avec Léa et avec Rachel. Pourquoi c'était tellement important ? Nous dit la Megillat Ruth que c'est du mariage entre Yaakov et Léa et Yaakov et Rachel chez Yatsa Bene Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? La bracha qu'on donne à Ruth, c'est qu'elle soit comme Rachel et Léa chez Banu Shneem et Bet Israël. C'est-à-dire qu'il semblerait que ce que représente Rachel est tout aussi important que ce que représente Léa. Mais c'est deux choses complètement différentes. Que représente Rachel et donc Béné Rachel ? Et que représente Léa et donc Béné Léa ? Eh bien, nous dit Sefer HaZohar que Rachel, c'est Olam Haidgalia, Alma de Haidgalia, le monde du Gilouï. C'est clair, ça se voit. Rachel, qu'est-ce qu'on nous dit d'elle ? Qu'elle était belle. Ça se voit. Chez Rachel, tout est limpide. Alors que Léa, c'est ce qu'on appelle Ola Alma Deit Kassia, Ola Makisui, le monde recouvert. D'ailleurs, elle n'a été la femme de Yaakov que parce qu'elle a été recouverte, justement. En d'autres termes, ce que représente Léa est beaucoup plus profond. Ce que représente Rachel est beaucoup plus premier. De ce fait, Eh bien, tout d'abord, ça paraît logique que donc la royauté commence par Rachel et non pas par Léa. Mais ça va aller plus loin. Quand tu regardes, et on verra ça la semaine prochaine, mais quand tu regardes le choix de David, tu te dis, c'est vraiment Dieu qui a choisi, parce que franchement, tel qu'on nous présente le bonhomme, l'homme a choisi. Alors que Shaoul est présenté dans la Torah et dans les Midrashim comme étant un super tzaddik. Shaoul, c'est au top du top. Eh oui, vous vous rappelez quand on a étudié Pilegesh Bagiva, à la fin de notre dernière étude du livre de Shoftim, eh bien, on se rappelle qu'à la fin de l'histoire, quand on a failli tuer tous les Binyaminites, il en reste 400, qu'on va marier avec 400 femmes, les femmes de Shiloh. Et finalement, eh bien, on nous dit qu'il y en a 399, le Midrash nous dit, d'hommes de Binyamin qui ont pris des femmes de Shiloh. Mais il y en a une qui a dû prendre le dernier parce que lui, il était de côté, il ne voulait pas prendre part à tout ça. Ils nous disent dans ça, c'est qui ce monsieur-là ? C'était Shaoul, qui était trop de tsanoua, trop de sadique pour aller prendre part à cette prise de guerre des hommes de Binyamin sur les femmes de Shiloh. Shaoul, c'est un sadique. Mamash tzadik, Hamoud tzadik. Etzlo, la tzniout, mouah. Mamash. D'ailleurs, on verra ça chez sa fille. La fille de Shaoul reprochera à David de danser comme ça devant le Aaron quand il le ramène à Jérusalem avec un ephod bad. Mazé ephod bad, c'est une jupette. Et quand il danse et tout, machin, la jupe, elle remonte un peu et on voit les jambes de David. Et Michal, elle dit, ça va bien, oui? Ça, c'est digne du Melech Israël qu'on le voit un petit peu dénudé. Parce que Michal, elle vient d'une maison où on ne se dénude pas. On dit, Razal, que dans la maison de Shaoul, même les hommes, ils ne découvraient rien des parties de leur corps. Ultra tznouim. À tel point, la tzniout de Shaoul et de sa maison, c'est que lorsque David lui coupera un morceau de son manteau, Razal lui reprocheront cette action-là, même si c'était pour ne pas tuer Shaoul. Le fait d'avoir porté atteinte à l'habit qui recouvre Shaoul, alors que pour lui c'est tellement important, eh bien nos sages nous disent que c'est la raison pour laquelle quand il sera plus vieux, David, aucune couverture n'arrivera à le réchauffer. On se rend compte ici que Shaoul, c'est un tzaddik. Vaye ish mi binyamin ushmo kish ben aviel ben sror ben bechorat ben afiach ben ish yemini gibor hail. C'est-à-dire qu'on nous présente la famille de Shaoul comme étant des tzadikim, ben tzadikim. Je rappelle que Binyamin ben Yaakov est l'un des quatre personnages qui n'a jamais fauté. Jamais fauté. Cloum. Et donc cet homme-là est présenté comme étant le successeur d'une lignée extraordinaire. Velo haya ben ushmo Shaoul, bachur vatov. ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. Ça va, j'ai pas besoin de t'en dire plus. Le mec, il est au top. Shaoul, tzadik, le plus grand tzadik, Gdol Hador, שכמו ומעלה, folie. Et quel est le problème de Shaoul? Quel va être le problème de Shaoul tout au long de son règne? D'ailleurs, on nous dit même que Shaoul, dans le chapitre Yudbet, si je ne me trompe pas, hein, je prends deux secondes, le chapitre Yudbet du livre de Shmuel, voilà, verset Aleph, voilà, on nous dit, non, excusez-moi, autant pour moi, je dis n'importe quoi, où est-ce que je suis? Je dis n'importe quoi, excusez-moi, autant pour moi. Où est-ce que c'est? Ah, je suis perdu. Ah bah voilà, excusez-moi, c'est pas Yudbet, Yud Gimel. Autant pour moi. Ben Shana Shaoul Bemolcho. Ou Shte Shanim Malach al Yerushalayim al Israël. Mais c'est Ben Shana Shaoul Bemolcho. Il a régné 2 ans sur Israël. Mais ça veut dire quoi que Ben Shana Shaoul Bemolcho? Il avait 1 an? Non, enfin, d'ailleurs que non. Et là, nous dit Razal, il était propre de tout Averot comme un fils de 1 an. Donc Shaoul, c'est un tzaddik. Il n'y a pas de problème. Quel est le risque du tzaddik? du tzadik qui est au-delà des Bnei Israël, Mishichmo Vamala, eh bien, c'est justement qu'il soit détaché des Bnei Israël. Shaoul, sa tzitkout, l'avait empêché de prendre part au Maaseh Binyamin quand il fallait se marier avec les filles de Shiloh. Shaoul, sa tzitkout, sa rachmanout, vont faire qu'il va finalement faire une erreur avec Agag Melech Amalek, de le laisser en vie. Shaoul a toujours cette dimension de trop plein de tzitkout, d'une piété un petit peu trop exacerbée. Et donc le rôle de Shmuel, c'est d'enseigner à Shaoul qu'il n'est pas une individualité, qu'il se doit d'être Melech Israël, qu'il ne se doit pas d'être le chef de Shaoul, chef de son royaume personnel, mais il se doit d'être le Melech du peuple. Et donc, on va lui faire comprendre que les actions qui semblent être complètement personnelles ne le sont pas. Et je continue dans le chapitre tête. Vatovadna tonot le kish avi Shaoul, vayomer kish el Shaoul beno, kachna etecha etechad me'anéarim, vekum lech bekesh et tonot. Le père de Shaoul est berger, je ne sais pas quoi, il a un troupeau d'ânesses, il les a perdus. Donc va le chercher, Shaoul, s'il te plaît. Donc il semblerait que ce soit un problème très particulier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vayavor be'ar Ephraim, vayavor be'eretz shalisha velo matzu, vayavru be'eretz shalim, ve'ain, vayavor be'eretz yemini velo matzu. Ici, il y a une question qui dit « Mishemerachem ala arzarim, sofo leitarzer ala rachmanim. » Celui qui a de la miséricorde pour les pourris, il finira par avoir il sera pourri envers ceux qui sont miséricordieux. Ben Aaron, c'était une erreur que Shaoul ait épargné Agag. C'est Aaron. Alors, Bekitzo, je reviens à notre histoire. Shaoul se balade pour aller chercher les Atonot. Mais où est-ce qu'il se balade? Il se balade dans les territoires de Yosef, c'est-à-dire de Ménaché, de Ephraim, et de Binyamin. En d'autres termes, il montre qu'il est attaché au Béné Rachel. Il est totalement attaché à ce que représente Rachel. Cette dimension de, voilà, ça se voit pourquoi il faut que ce soit moi. Ça se voit, mais ça veut dire que tu ne te concentres que sur ce qui est galouille. Alors que des fois, il faut s'attacher à ce qui est en profondeur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ine. Emma baout beret tsuf ve Shaoul amar le naaro asher imo lecha ve nashuv ve apen yachdal avi min ha'atonot ve da'ag lanu. Vayomer lo inina ish Elohim ba'ir hazot. Ve ha'ish nichbad kol asher yedaber bo yavo. Ata nelcha sham ulai yagid lanu et derachenu im halachnu aleha. Shaoul pense qu'il n'y a plus rien à faire. On a perdu les Hadès, on a perdu les Anès. Mais là, son Naharo, qui comprend très bien qu'il s'agit de quelque chose de plus grand, il lui dit, écoute, il y a ici Isha Elohim. Isha Elohim, c'est Navi. Chav Navi, j'ai un problème de maths, alors je demande au Navi. La prophétie, c'est pour le Klal Israël. D'autant plus si elle est marquée ici, puisque Nevoa, Sheutzrecha, Ledorot, Nirteva. En d'autres termes, le Nahar, qui est Er, c'est pour ça qu'il s'appelle Nahar, il est éveillé à tout ce qui est en train de se passer, eh bien, il dit à Shaoul, non, il faut aller voir le Isha Elohim, parce que ce qui t'arrive n'est pas un drame personnel, ça va au-delà. Tov, bon iré. Et là, finalement, voilà, excusez-moi. Donc, Vayomer Shaoul, ויאסוף הנער לענות אל שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוהים והגיד לנו את דרכנו לפנים לפנים בישראל כי אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים לכו ונלכה עד הרועה כי לנביא היום ייקרא לפנים הרועה ויאמר שאול לנערו טוב דבריך לך ונלכה נלכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים. Donc, Shaoul accepte. Il comprend qu'il se passe quelque chose. Mais est-ce qu'il comprend que ce qui est en train de se jouer, c'est que lui prenne une dimension collective? Eh bien, pas encore. Finalement, ils arrivent chez ce Navi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Que voachem haïr, verset Yud Gimel. Ki timtseu notom beterem yale abamata lechol ki lo yochal ha'am ad bo ki hu yevarech ha'zevach achareichen veyochlu ha'kiruim ועתה עלו כי אותו כיום תמצאון אותו. ועלו העיר, המה באים לתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. Ce navi en question, c'est Shmuel. Et là, toute la question est là. La question, elle est évidente. Le Nahar, il a dit à Shaoul, y a un prophète là-bas, Isha Elohim. C'est Shmuel. On ne connaît pas Shmuel. Tout le monde connaît Shmuel. Non? Alors pourquoi est-ce que Shaoul ne sait pas qu'il arrive ici devant Shmuel? Eh bien, pour une raison très simple. Shmuel, il est connu de tout le peuple, mais chez les Binyaminites, on a un problème. Chez les Binyaminites, on a un problème avec Shmuel. Vezot Madoua. Pourquoi est-ce qu'on a problème avec Shmuel? Shmuel, comme vous le savez, a pris sur lui de faire des bamotes, a pris sur lui de faire des corbanotes un peu partout. Shmuel a donc tout simplement annulé la centralité de Shiloh. Mais il a annulé, il n'a pas encore mis en place non plus la centralité de Jérusalem. Donc, et Yosef et Binyamin, quelque part, ont été mis de côté par Shmuel. Donc, il y a une rancœur de la part des Binyaminites envers Shmuel. Et donc, on le connaît, bien sûr qu'on le connaît en vrai. Mais on ne veut pas dire que c'est Shmuel. Zeisha Elohim. Lorsqu'il va être face à face, nez à nez, eh bien, le premier pas pour arriver à comprendre qu'il a une destinée collective, c'est d'accepter qu'il s'agit de Shmuel. Celui qui a rassemblé le peuple juif autour de lui. Vashem gala et ozen Shmuel yom echad lifne bo Shaul lemor kaet machar eshlach ish. Donc Dieu s'est dévoilé à Shmuel la veille pour lui dire voilà demain il va venir. Nous veaz vayigash Shaul et Shmuel betoch hashar vayomer agiden ali eize bet haroe vayan Shmuel et Shaul vayomer anochi haroe ale lefanai bama. ואכלתם עמי היום, ושילחתיך בבוקר, וכל אשר בלבבך אגיד לך. ולאתונות העובדות לך היום, שלושת הימים, אל תשם את ליבך להם, כי נמצאו. ולמי כל חמדת ישראל, עלו לך ולכל בית אביך. D'abord, ici on voit que Shmuel est l'inventeur du tish chassidique. Vous savez, quand le rabbi il mange et qu'il donne après à manger aux autres, ben c'est ce qu'il fait avec, avec Shaoul. Il dit, viens manger, viens manger. Viens manger, et ensuite, je te donnerai un peu à manger. Pourquoi? Shmuel mange les corbanotes. Les corbanotes lui viennent de Ham Israël. Et donc, il veut donner un peu de cette force de Ham Israël à Shaoul. Tout pour lui faire comprendre qu'il doit maintenant endosser une responsabilité collective. Et à ce moment-là, eh bien voilà, « Vayan Shaoul vayomer alo ben yemini anochi » מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. ולמה דיברת אליי כדבר הזה? שאול ידיע אותו, מוע, je suis pas la bonne adresse. Je suis pas la bonne adresse. ויקח שמואל את שאול ואת נערו ואביהם לשקטה, ויתן להם מקום בראש הקירויים, והמה כ-30 איש. ואומר שמואל לטבח, תנה את מנה, את המנה, אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. ויחם את הבח את השוק ועליה, וישם לפני שאול. ספר הזוהר, שוק הימין, זה מידת המלכות. עוד אותך יותר, אסמם עולה, שמואל, די השאול, מנג' 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 לקוויס. זה ללו לקוויס, כמו נראה לאותך. מנג', תווה דבניר גרסס לה, למלך ישראל. מנג'ו מריפה, מנג'. אופת, תיאטונות, תדיר תום פרובלם, דנס, פרטיקוליה, אל תדאג. Des Bactana. Tu dois t'occuper de choses beaucoup plus grandes maintenant. Tov, 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 nous, nous, nous. Vayomer Shaoul im Shmuel, Vayochal Shaoul im Shmuel, Bayom, Aou. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? וישכימו ויהיו קהלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגגה, לאמור, קומה ואשלחך, ויקום שאול ויצאו שניהם, הוא ושמואל החוצה, המה יורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור, ואתה עמוד ביום והשמאך את דבר האלוהים. את דבר אלוהים. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו, וישקהו ויאמר, הלא כי משכך השם על נחלתו לנגיד, בלכתך היום מימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל, בגבול בנימין, בצלצח. ואמרו עליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, והנה נטש אביך את דברי האתונות, ודאג לכם, למור, מה אעשה לבני? שמואל דיה שאול. מנו אקוטמו ביאן. ז'תו אוין. Tu deviens Mashiach Hashem, c'est-à-dire celui qui a été oint pour Dieu. Tu vas devenir le chef du peuple d'Israël et tu vas devoir aller jusqu'à la limite de la tribu de Binyamin, de Rachel. Pourquoi ? Pour retrouver tes atonotes. En d'autres termes, tu dois sortir de ta conception fermée de fils de Binyamin, fils de Rachel. Ça y est, les atonotes, tu les rends à ton père, à Koltov, tu n'es plus une dimension particulière. Tu n'es plus une identité personnelle. Tu es devenu le chef d'Israël. La malchut de Shaoul, c'est une malchut qui ne va pas avoir du tout de problème à être acceptée par le peuple juif. Parce qu'on a dit, ou galouï, shirmo vamala, le seul qui n'en avait pas conscience, c'était lui. Preuve de sa tzidkout. Mais alors à ce moment-là, s'il est tellement positif, Shaoul, pourquoi il ne reste pas ? Pourquoi ce n'est pas lui le chef éternel ? Que la maison de Shaoul devienne la maison de l'éternité, de la royauté d'Israël. L'amalo. Eh bien, lorsque Yaakov va donner les brachot à ses enfants et qu'il arrive à Binyamin, il dit la chose suivante. Binyamin, Zeev Yitraf, Baboker Yochal Ad, Vela Erev Yechalek Shalal. Binyamin est tout à fait capable de diriger le peuple juif, mais pas de manière permanente. Binyamin est très bon ba boker ve ba erev. Ba boker yochal ad, vela erev yechalek shalal. Binyamin est très fort dans les situations de point de départ et de conclusion. Il est le manig pour lancer la hanaga et il est le manig pour fermer la Hanaga. En d'autres termes, Shaoul devient le premier roi d'Israël en Eretz Israël et il sera également le dernier manig juif en exil, Mordechai. Mordechai à Yehudi qui est Mishevet Binyamin. En d'autres termes, et qui est descendant de Shaoul d'ailleurs, en d'autres termes, nous avons ici celui qui va ouvrir la Malchut car il est Mibnei Rachel et qu'il est donc ouvertement le chef. Mais on a dit, il faut quelque chose pour que cette malchut puisse véritablement être ce que Dieu a demandé dans la paracha de Shoftim. Et c'est pour ça qu'il va se passer quelque chose. Shmuel continue à lui dire d'avancer, de rentrer chez lui, et qu'à ce moment-là, tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des gens, Slicha. Je reprends au verset Gimel. וחלפת משם ועלה ובאת אל אלון תבור ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים. בית אל, אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושה כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים, והיא כבואך שם. העיר ופגשת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל וטוב וחליל וכינור והם המתנבאים. Tu vas rencontrer plein de gens qui vont t'amener à prendre trois consciences. La première, tu vas rencontrer des gens qui vont Behar Elohim. C'est-à-dire, tu vas rencontrer les gens qui n'ont pas oublié d'être rattachés à Dieu. Et c'est eux qui vont te couronner. C'est le Machal des Béné Israël. Ensuite, tu vas aller là où tu devras faire face aux Plishtim. Parce que le Melech Israël, son rôle est d'abord d'apporter la paix, la sécurité à son peuple. Et tu vas également rencontrer les Nevi'im. Pourquoi ? Pour que ça influe sur toi. Veine, ויבוא שם, verset יוד, ויבוא שם הגבעתה, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוהים, ויתנבא בתוכם, ויהי כל יודעו מאתמול שלשום, ויראו, והנה אם נביאים ניבא, ואומר העם, איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש, אגם שאול בנביאים? ויען איש משם, ויאמר מי אביהם, אל, על כל, על כן הייתה למשל, אגם שאול בנביאים. שאול דוויין לוי אוסי פרופט. Et en cela, il montre que sa royauté provient d'Akadosh Baruch Hu. Ça y est, il est reconnu par tous comme étant celui qui doit unir le peuple juif. Nous, Metsuyan, Metsuyan. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ma Corée. Vayatsek, Shemuel, et Ta'am, et Hashem, Bamitzpah. ויאמר אל בני ישראל, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את מצרים ממצרים, ואציל אתכם מיד ממצרים ומיד ממלכות הלוחצים אתכם, ואתם היום מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו, ואתה התייצבו לפני השם לשבטיכם ולאלפיכם. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל וילקד שבט בנימין, ויקרב את שבט בנימין למשפחתו, ותלקד משפחת המטרי, וילקד צריך שאול בן קיש, ויבקשו לו, ולא נמצא. וישאלו עוד בהשם, אבא עוד, אלוהים איש. ואומר השם, הנה הוא נרבה על הכלים. On a un טקס de malade. On va présenter שאול מלך ישראל à tout le peuple juif. שמואל, il est d'accord. Dieu, il est d'accord. Les בני ישראל sont d'accord. Le seul qui veut pas du rôle, c'est Shaoul, Vonichba El Akelim. Et ça, c'est ce qui va signer le début de la fin de Shaoul. Il est tzadik meod, mais il n'arrive pas à être ce qu'il doit être, à savoir, eh bien, une personnalité collective. Il n'a pas de problème avec être deux ou trois Neviim, être avec deux ou trois personnes. Mais quand tout Am Israël se place devant lui, ou Boréar. Et c'est ça la grande erreur de Shaoul. Shaoul, comme on a dit de Binyamin, il est capable de faire un coup d'éclat au début et un coup d'éclat à la fin. Mais pour tenir la distance, il faut être capable de comprendre qu'on vient de l'intériorité d'Israël. Il fallait que Shaoul soit le premier roi et non pas David, car David n'est pas reconnu tout de suite. Il fallait que tout d'abord, Am Israël se réveille à la volonté de s'unir. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça aurait été bien de bonnes, mais ça a été de mauvaises. Mais l'idée de s'unir, elle est bonne. Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, c'est de ça qu'on parle. Certes, ils ne sont pas arrivés au niveau où ils devraient arriver. Aval, ils ont déjà compris pas mal de choses. À toi de jouer maintenant. À toi de jouer maintenant pour faire comprendre à celui qui va être leur chef qu'il va être leur chef. Eux l'ont compris. Le choix de Dieu a été entériné par l'Ibn Israël et seul le chef lui-même, Shaoul, a du mal à l'intégrer. Ve'u nechba el akelim. וירוצו משם ויתייצב בתוך העם ויגבע מכל העם ושכמו ומעלה. C'est une évidence. Quand finalement les gens vont le chercher, il se met debout, il fait trois têtes de plus que tout le monde. נו, אז מה? ואומר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו השם כי אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה. ויכתוב בספר וינח לפני השם וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. וגם שאול הלך לביתו גבעתה. איי איי איי. Ça y est, on pensait enfin que c'était bon. Shmuel avait couronné Shaoul devant tout le monde. Ça y est. Aval Shaoul, il décide de rentrer chez lui. Berama. Non mais non, c'est pas possible. Givata, c'est ça. A Giva. Givat Shaoul, agave, c'est pas le Givat Shaoul d'aujourd'hui. C'est Tel El Ful. C'est Pisgat Zeev. Actuel, dans notre tribu de Binyamin. Bekitsur, Shuv Pam, il revient dans la tribu de Binyamin. Il n'a pas compris que c'était le moment où il devait faire comme ce que David fera, de choisir une ville neutre pour y régner. Shaoul n'arrive pas à s'élever au-delà de sa condition personnelle. Il a été reconnu Meller par tout le monde, mais lui ne se reconnaît pas comme tel. Le Meller, son rôle, et de ne pas se laisser influencer par le peuple. C'est à lui de diriger le peuple. Il peut écouter le peuple, mais c'est à lui de le diriger. Le grand problème de Shaoul, c'est qu'il n'a pas été capable de tenir tête au peuple. Et c'est cela qui va le faire tomber. Dans la guerre contre Amalek, pourquoi est-ce qu'il a épargné Amalek, le roi d'Amalek, Agag? Pourquoi est-ce qu'il a épargné le bétail? Lorsque Shmuel lui demande « Pourquoi tu as fait ça ?» Shaoul répond « Avalaam bikesh. » Le peuple a demandé, alors j'ai fait, qu'est-ce que je te dis? Et c'est cela qui va faire en sorte que la royauté de Shaoul ne sera pas éternelle. Il y aura Shaoul, il y aura Ishbosheth, Vezeo. Pourquoi? Parce qu'il n'est que Binyaminite. Il représente l'éclat du début. Mais il doit être suivi par Yehuda qui saura tenir la distance. En d'autres termes, ces trois chapitres qu'on a survolés, Chet, Tet et Yud, du livre de Shmuel, nous donnent l'idéal de la royauté d'Israël. Cet idéal, elle a trois dimensions. Elle a la capacité de représenter Akadosh Baruch Hu. C'est Aleph. Bet, elle doit être le symbole de l'union du peuple juif. Et Gimel, elle doit être capable eh bien, de protéger et de mettre en pratique le message d'Israël. Shaoul n'a été capable de faire cela que de manière extrêmement temporaire. Et c'est la raison pour laquelle il n'a régné que 2 ans et que va lui suivre Ishbosheth, mais que va lui suivre surtout la maison de David. En d'autres termes, il fallait la maison de Shaoul pour porter l'éclat sur la dimension de la monarchie pour finalement amener à la royauté de David qui pourra, elle, s'installer dans l'éternité, car David, dès le départ, comprend qu'il n'est pas fait pour être lui-même responsable de lui-même, mais qu'il a d'abord et avant tout une responsabilité collective. Mais ça, la responsabilité collective de David, dans son combat contre l'autre grand bonhomme là-bas, eh bien, c'est ce qu'on étudiera la semaine prochaine. À bientôt, les amis. Shabbat shalom.